ensemble dans l'évangile de Luc, le chapitre 24, le dernier chapitre de l'évangile de Luc, et nous allons voir les versets 36 à 53. Luc 24, 36 à 53. Un texte qui nous parle des derniers instants que le Seigneur Jésus a passé avec ses disciples. Et c'est suite à ces instants que le Seigneur va monter au ciel, laisser ses disciples sur la terre pour rejoindre son Père dans les lieux célestes, pour intercéder pour nous à la droite de Dieu. Et avant que nous nous plongions dans ce texte, je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te remercions de nous avoir donné ta parole. Merci parce que par elle, tu nous instruis. Tu nous montres des réalités cachées qui aujourd'hui nous sont révélées. Merci parce que nous avons la chance de vivre dans le temps dans lequel nous sommes. Nous avons la chance de pouvoir connaître ta révélation dans son entièreté. Merci parce que ta parole nous enseigne tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'il nous faut, Seigneur, pour pouvoir vivre dans ce monde et pouvoir te représenter. Bénis, Seigneur, ta parole, ouvre les yeux et les oreilles de notre cœur, que nous puissions contempler, Seigneur, tes merveilles, que nous puissions être édifiés en toi par la foi, garder les yeux levés vers toi et les pieds sur terre. Amen.
Amen.
Comme je disais, nous sommes dans les derniers moments que le Seigneur passe avec ses disciples, et si j'ai choisi de prendre ce texte avec vous ce matin, c'est parce qu'en réfléchissant un peu au moment que nous vivons en ce moment, nous avons repris nos cultes en présentiel ici depuis un mois, aujourd'hui, et je me suis dit, en voyant aussi pour nous à Béligna l'évolution de la situation par rapport au coronavirus, je me suis dit, les choses ont changé, les choses ne sont plus pareilles. Même si nous avons repris nos cultes, même si nous avons repris nos activités, il y a des choses qui changent. Et je me suis reconnu un peu dans ces disciples, dans la relation avec le Seigneur, les derniers moments qu'ils passent ensemble. Pour eux aussi, il y a eu beaucoup de changements. Ils ont passé 3 années avec le Seigneur. Le Seigneur est mort à la croix. Ils ne s'y attendaient pas vraiment, même si le Seigneur l'avait dit. Ils ont été surpris et ils ont été peinés de voir leur maître qui a dû suivre ce chemin, qui a dû boire cette coupe. Et les disciples étaient désemparés. Et peut-être que nous aussi, dans les différents changements que nous avons dû vivre, même avec ce retour ici, les choses ont changé. Et je pense qu'il est vain de se dire que, eh bien, un jour les choses retourneront à la normale comme elles étaient avant. Je pense qu'il y a eu un avant, il y aura un après Covid. Les choses vont changer et on ne reviendra jamais à ce qu'on était avant. Et je pense qu'il y a un certain deuil à faire de cela. Et il y a aussi une nouvelle étape à prendre. Les choses ont changé, certes, mais nous allons aussi vers le meilleur. Le plan de Dieu n'a pas été stoppé par cette crise. Le plan de Dieu échappe au plan des hommes. Et ce n'est pas ce coronavirus qui va empêcher Dieu d'agir pour ce monde, pour nous. Mais c'est à nous de saisir comment est-ce que Dieu veut nous conduire aujourd'hui, avec tous ces changements. Où est-ce que Dieu est présent? Où est-ce qu'il agit? Et qu'est-ce que moi je peux faire pour m'intégrer dans ses plans à lui? Comme je l'ai dit, les disciples ont été surpris et ils ont eu du mal à saisir les changements qui ont découlé de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Et ce que je trouve marquant dans ce chapitre 24, nous allons lire à partir du verset 36, mais à partir du verset 24, le Seigneur est ressuscité et il va apparaître à certaines personnes, et notamment au début auprès des femmes, de deux femmes, à qui il va se révéler et annoncer sa résurrection. Et ces femmes, elles vont courir pour annoncer la nouvelle aux disciples. Et peut-être que vous connaissez la réaction des disciples lorsque les femmes vont annoncer la résurrection du Seigneur. Elles ne vont pas les croire. Ils ne vont pas les croire, pardon. Ils vont dire, oh, ben, ce sont des rêveries de bonnes femmes, si j'ose m'exprimer ainsi. Ils ne vont pas accorder crédit à la déclaration de ces femmes. Et les autres évangiles complètent un peu aussi le récit que nous fait Luc dans ce chapitre 24, en disant que le Seigneur va apparaître à plusieurs fois, à plusieurs d'entre eux, leur annoncer la résurrection, et les disciples vont avoir du mal à croire que le Seigneur est bien ressuscité. Ce qui est d'autant plus surprenant pour nous, sachant que le Seigneur avait annoncé ces choses. Le Seigneur ne l'a pas caché à ses disciples, mais les disciples ont eu beaucoup de mal à l'intégrer. Et nous allons maintenant prendre notre texte, donc Luc chapitre 24, les versets 36 à 53. Et ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin de tout ce que je vais dire par rapport à ce départ de Jésus, ce changement pour la vie des disciples. Jésus est au ciel, c'est une perte et c'est un gain pour les siens. Et pour nous aujourd'hui, de façon plus large, le changement que nous devons vivre, c'est à la fois une perte et un gain pour nous. Nous allons donc lire notre texte, Luc chapitre 24, les versets 36, et nous allons nous arrêter au verset 43. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Dans cette première partie de notre texte, nous découvrons principalement l'incrédulité des disciples, qui correspond pour nous aussi aujourd'hui à l'incrédulité humaine dont parfois nous pouvons aussi faire preuve. Il est bien facile de jeter la pierre aux disciples, le Seigneur apparaît au milieu d'eux et ils ne le reconnaissent même pas. Mais pour nous aussi, lorsque nous vivons des temps de changement, lorsque nous changeons de paradigme et nous avons changé, de paradigme avec ce coronavirus, cette nouvelle étape, cette reprise des cultes ici, cette autre façon de vivre notre foi de façon pratique, il est parfois aussi facile pour nous de perdre pied et peut-être de chercher simplement à retrouver ce qu'on avait perdu, à se contenter de cela, à entretenir une nostalgie qui nous empêche de voir que le plan de Dieu, lui, il avance. Et que le Seigneur a besoin aussi que nous saisissions les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous. Pour les disciples, le Seigneur se présente directement au milieu d'eux. Je trouve ça marquant de voir le Seigneur qui apparaît d'un coup au milieu d'eux. Il se révèle à ses disciples, il a à cœur de pouvoir encore les enseigner, il est ressuscité quelques jours après sa mort, et avant son départ au ciel auprès du Père, il va passer 40 jours sur terre avec ses disciples. Et c'est au cours de ces 40 jours, même à la fin de ces 40 jours, que notre texte se situe. Il se présente au milieu d'eux et il leur donne cette formule « La paix soit avec vous ». Une formule intéressante parce que cette paix que le Seigneur invoque sur eux, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a gagnée pour eux. La paix ultime. Vous savez que à cette époque, il était courant de donner cette bénédiction, la bénédiction du shalom dans le peuple juif, que la paix de Dieu soit sur toi. Et c'est aussi pour cela que le Seigneur utilise cette formulation, formule que le peuple juif connaît bien, mais qui enfin aujourd'hui est accomplie. Lorsqu'elle sort de la bouche du Seigneur, à ce moment-là, quand il se révèle à eux après sa mort, cette déclaration, la paix soit sur vous, elle prend tellement plus de sens, tellement plus de saveur, parce que le Seigneur lui-même a accompli son œuvre. Tout est accompli à la croix. La paix est enfin accessible de façon pleine et entière auprès de Dieu. Jusqu'ici, jusqu'à ce que le Seigneur arrive, cette paix n'était que temporaire. Cette paix n'était qu'un avant-goût. Le peuple juif n'a pu connaître qu'un avant-goût de la paix que Dieu propose à ceux qui lui appartiennent. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur Jésus, cette paix est enfin entière, complète. Elle avait été promise par les prophètes, et aujourd'hui, elle arrive enfin pleinement pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Une paix, comme je le disais aussi tout à l'heure, pour le moment de la scène, a coûté un grand prix au Seigneur Jésus. Lui qui était parfait, il a accepté de mourir pour nous, pour que nous puissions être justes, afin que celui qui croit dans l'œuvre du Seigneur Jésus puisse connaître la paix du cœur, la paix intérieure, la paix avec Dieu. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui nous permet de vivre le cœur léger, plutôt qu'avec un fardeau sur les épaules. Le fardeau de notre culpabilité, le fardeau de notre faute. Aujourd'hui, lorsque le Seigneur se révèle à ses disciples, eh bien enfin cette paix est accessible. Elle est complète. Et les disciples peuvent vivre en nouveauté de vie, en sachant que le Seigneur a tout accompli à leur place. Et qu'étant parfait, son œuvre, elle aussi, est parfaite. Le Seigneur annonce « La paix soit sur vous ». Et si vous remarquez, la réaction des disciples, elle est très intéressante. Saisie de frayeur et d'épouvante. Vous comprenez là, la frayeur et l'épouvante, c'est exactement l'inverse de ce que le Seigneur vient d'annoncer sur eux. Le Seigneur vient de les bénir en disant « Que la paix soit sur vous ». Et comment ils réagissent ? Ils ont peur. Ils ne vivent pas cette paix que le Seigneur a invoqué sur eux, mais ils ont peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur ? Le Seigneur lui-même le discerne dans leur cœur, et il va leur poser des questions, presque il leur fait un reproche, il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ?» Le Seigneur sait pourquoi les disciples ont peur. Les disciples pensent voir un esprit. Ils pensent voir un fantôme, pour employer un mot qu'on utiliserait plus aujourd'hui. Ils pensent que c'est une apparition, et ils ont peur. Ils ne saisissent pas l'ampleur de ce qu'il s'est passé. Le Seigneur est mort, il est ressuscité, il apparaît au milieu d'eux, et ses disciples ne saisissent pas la réalité de ce qui s'est passé. L'importance du virage qui a été pris dans l'histoire de l'humanité. Et le Seigneur, je trouve beau de voir qu'il ne leur fait pas vraiment de reproches, pas tant que cela. Il expose leur incrédulité, il les questionne et il va leur donner des preuves très concrètes du fait qu'il n'est pas un esprit, mais qu'il est bien dans un corps humain. Il va donc leur proposer de voir ses mains et ses pieds qui ont connu la crucifixion, qui ont des trous. Ça, c'est un autre évangile aussi qui nous le dit, avec Thomas notamment, qui doutait de la résurrection du Seigneur. Le Seigneur présente ses mains et ses pieds pour que Thomas puisse réaliser que c'est bien lui qui est mort à la croix. Et il va leur dire, un esprit n'a ni chair ni os, et voyez, moi j'ai un corps. Je ne suis pas simplement un esprit qui vous apparaît, mais je suis vivant. Je ne suis plus mort. Il leur montre ses mains et ses pieds, et vous remarquez, au verset 41, les disciples sont alors remplis de joie. Mais le texte met en avant une vérité sur laquelle on pourrait passer un peu rapidement, au verset 41. « Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. » Et là, nous, on se questionne. Ils sont dans la joie, mais ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore vraiment compris ce qui s'est passé. Ce que le texte met ici en avant, c'est que les disciples sont joyeux de réaliser que c'est bien le Seigneur qui est en face d'eux, mais ils ne saisissent pas qu'en fait, le Seigneur est bien ressuscité et que cela implique un changement, implique quelque chose de nouveau. Les disciples ne le discernent pas. Et pour eux, dans leur joie, peut-être un peu comme pour nous, nous pourrions le vivre après cette crise de coronavirus, nous nous retrouvons ici, peut-être que les disciples se sont dit, eh bien les choses vont reprendre comme avant. Le Seigneur nous avait été enlevé, plusieurs jours sont passés, plusieurs semaines sont passées, maintenant nous le voyons, il a un corps, nous allons retrouver la situation que nous avons perdue. Le Seigneur va rester avec nous, nous allons à nouveau être ses disciples, nous allons l'accompagner à nouveau dans son voyage. Il va continuer la mission qu'il avait déjà commencé avant, d'annoncer l'Évangile. Et pourtant, vous savez, si vous continuez à lire dans la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus est ressuscité, mais il ne reste pas. Il est allé à la rencontre de ses disciples pendant ces 40 jours après sa résurrection, mais il va s'en aller. Il va laisser pour la deuxième fois ses disciples. Et c'est cela que notre texte met en avant, en disant que dans leur joie, ils ne croient pas encore et qu'ils sont dans l'étonnement. Aussi, le Seigneur leur propose aussi de lui donner à manger, pour qu'il puisse aller plus loin, qu'il puisse réaliser le changement qui arrive de par la résurrection du Seigneur. Les disciples vont donc lui servir aussi à manger, et devant eux, le Seigneur va manger et il va boire. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas simplement retrouver cette communion toute pratique que nous aussi nous avons retrouvée dans l'Église depuis la fin du confinement et la reprise des cultes, et le Seigneur va plus loin. Et si nous allons reprendre notre lecture au verset 44 jusqu'au verset 49. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Après leur avoir montré la réalité de sa présence, la réalité de sa résurrection, le Seigneur veut les emmener plus loin. Parce qu'il sait que les disciples n'ont pas encore saisi ce qui se passe. Les changements nécessaires qui arrivent avec cette nouvelle étape dans le plan du salut de Dieu. Et il va commencer par leur montrer que ce que Jésus a fait, son œuvre, est avant tout un accomplissement divin, un accomplissement de Dieu qui a été annoncé dans sa parole, dans l'Ancien Testament, il y a bien longtemps. Si bien qu'en fait, l'œuvre de Jésus est en conformité avec l'Ancien Testament, avec l'Écriture. Et je trouve aussi intéressant de voir là que le Seigneur ne les prend pas au dépourvu. Au verset 44, il nous précise bien, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » Et ici, deux choses que j'aimerais souligner. Le Seigneur leur a déjà annoncé tout ce qu'il va leur redire maintenant. « Je vous l'ai déjà dit. » Et aujourd'hui, je vous le répète, mais nous verrons un peu plus loin qu'il y a un changement. Il y a quelque chose de différent. Et ensuite, une deuxième chose à remarquer, le Seigneur dit « lorsque j'étais encore avec vous ». Vous remarquez cette formulation ? On a l'impression que le Seigneur dit « je suis plus vraiment avec vous », alors que physiquement, le Seigneur est avec eux. Il s'est révélé à eux. Mais le Seigneur leur montre déjà là, au début de ce qu'il dit, les choses ont changé. Je ne suis plus vraiment avec vous. J'ai été avec vous pendant les 3 ans qu'on a passé ensemble. Maintenant, je suis mort. Certes, je suis ressuscité, je vous apparais, mais je ne suis plus vraiment avec vous comme je l'étais avant. Je me révèle à vous, je vous enseigne, mais on ne retrouvera pas ce que nous avons connu pendant ces 3 années. Et ce n'est pas particulièrement dit dans ce passage de l'évangile de Luc, mais en prenant les autres récits dans les autres évangiles, nous remarquons qu'en fait, dans ces 40 jours où le Seigneur se révèle aux siens, le Seigneur se révèle de façon ponctuelle. Il leur apparaît à un moment, et puis il disparaît. Il laisse les disciples. Et quelques jours plus tard, il leur réapparaît pour à nouveau les enseigner, et puis il les quitte. C'est là que nous voyons une grande différence dans la relation entre le Seigneur Jésus et ses disciples, dans cette période particulière de 40 jours. Le Seigneur n'est plus présent en permanence avec eux. Il leur apparaît de temps en temps, et il s'en va. C'est pour cela que le Seigneur dit « Lorsque j'étais encore avec vous ». Il y a une différence. Il n'est plus vraiment présent avec eux comme il l'était avant. Ensuite, le Seigneur va donc montrer à ses disciples que son œuvre est en conformité avec l'Écriture. Et particulièrement, le Seigneur va citer trois faits marquants que le Seigneur accomplit. Jésus accomplit en fait les 3 parties de l'Ancien Testament. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de décrire pour le peuple juif l'Ancien Testament, la révélation que Dieu avait donnée. Souvent, soit on dit qu'il y a la loi, les prophètes et les psaumes, et le Seigneur Jésus reprend plutôt ce découpage-là dans son ministère terrestre, dans les évangiles, soit on dit qu'il y a la loi et les prophètes, de façon plus simple, et on laisse les psaumes de côté. Mais tout ça pour dire, le Seigneur accomplit l'Écriture dans son entièreté, l'Écriture de l'Ancien Testament. Tout ce qui avait été promis par Dieu, Jésus l'accomplit. Et donc, en citant la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, le Seigneur agit pour ses disciples. Il fait quelque chose de particulier que jusqu'ici, il n'avait pas fait. Regardez le verset 45. « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Voilà déjà un grand changement entre le ministère terrestre de Jésus et ce que, aujourd'hui encore, nous pouvons expérimenter. Le Seigneur a enseigné ses disciples pendant son ministère terrestre, il leur a annoncé tout ce qui le concernait déjà, il leur a donné des pistes, et les disciples ont eu du mal à le croire. Ils ont eu du mal à saisir ce que ça impliquait. Et j'en veux pour preuve le fait qu'ils ont eu du mal à accepter la mort du Seigneur. Pierre est même allé jusqu'à reprendre le Seigneur Jésus en lui disant « Ah non Seigneur, ça ne t'arrivera pas !» Ce qui nous montre à quel point Pierre était aveugle de ne pas saisir qu'en mourant, Jésus accomplit le plan de Dieu. Mais là, la différence est là. Jésus va ouvrir, je recherche le verset, il ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et je pense ici qu'il y a quelque chose à saisir de très important pour nous aujourd'hui. Si le Seigneur Jésus n'ouvre pas nos yeux, ou les yeux de nos contemporains, pour comprendre les Écritures, nous ne pouvons pas réaliser pleinement l'œuvre de Dieu. Et ce que je veux souligner par là, en bon calviniste que je pourrais être, c'est que nous avons besoin que Dieu agisse pour nous, pour que nous puissions croire en Dieu. Sans tomber dans des extrêmes, cela nous montre que le processus de foi, de conversion en Dieu, nécessite à la base que Dieu agisse pour nous. On ne peut pas simplement dire de nous-mêmes, « Moi, je veux apprendre à connaître Dieu et je vais suivre mon propre chemin pour le connaître et je vais trouver la vérité. » C'est là tout le piège dans lequel on peut tomber par la philosophie, chercher à trouver Dieu par soi-même. La réalité que Dieu nous donne dans sa parole, c'est que c'est Dieu qui fait le premier pas. C'est lui qui ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre l'Écriture, que nous puissions saisir au-delà simplement de ce qui est décrit dans la parole de Dieu, des histoires et des vérités morales ou bibliques qui sont données. Il y a quelque chose qui va plus loin que ça, quelque chose de spirituel, de caché, qui nécessite que Dieu agisse pour nous pour que nous puissions le comprendre. C'est là aussi tout l'intérêt de la prière que j'ai faite avant de commencer cette prédication, que Dieu vienne ouvrir notre cœur, les yeux de notre cœur. Nous avons besoin que Dieu agisse pour nous, pour que nous comprenions ce qu'il nous dit dans sa parole. Le Seigneur continue au verset 46 en déclarant « Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations. Trois éléments que le Seigneur nous donne sur son œuvre, qui, on pourrait dire, pourrait résumer d'une certaine façon l'œuvre de Jésus-Christ, bien que ce ne soit pas limitatif. Le Seigneur a choisi ces trois étapes. En premier, la souffrance. Christ doit souffrir et donc mourir. En deuxième, il doit ressusciter. Et en troisième, son salut doit être annoncé à toutes les nations. Trois étapes qui, encore une fois, sont très surprenantes pour les disciples, qui n'avaient pas saisi ces réalités. Le Christ doit souffrir, il va ressusciter, et le salut ne sera plus limité simplement au peuple juif, mais il sera ouvert à toutes les nations. Tout cela en accord, le Seigneur montre que toutes ces choses ne sont pas si nouvelles que ça, parce qu'elles ont déjà été annoncées dans l'Ancien Testament. Et sans prendre tous les textes, parce qu'il y en a pléthore, il y a beaucoup de textes qui parlent de ces réalités-là. J'aimerais simplement en souligner deux. Déjà, le psaume 22, les versets 17 à 19, que je vais vous lire. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Un texte que l'on retrouve dans les psaumes. Et lorsque nous lisons les souffrances par lesquelles Jésus-Christ a dû passer, qui nous sont décrites dans les évangiles, la ressemblance est tellement frappante. Le psalmiste qui a donné ces versets, lui-même ne s'est pas reconnu dans ce qu'il a déclaré, parce que cela annonçait quelque chose de beaucoup plus grand que simplement lui. Cela annonçait déjà en avance les souffrances du roi des rois, celui qui règne, celui par qui la création est venue à l'existence. Et nous découvrons dans ces quelques versets du psaume 22 la réalité de la souffrance que Jésus a connue. Un autre passage qui cette fois-ci va traiter de la résurrection, dans le livre d'Osée, au chapitre 6 et les versets 1 et 2, où le prophète déclare « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » Comment ne pas saisir, en comparant ces deux versets avec la réalité de la résurrection de Jésus, qui est aussi décrite dans nos textes du Nouveau Testament, comment ne pas saisir à quel point ces versets font référence à l'œuvre de Jésus et à sa résurrection, qui, par sa résurrection, nous permet de vivre à nouveau auprès de Dieu. Jésus ouvre l'esprit de ses disciples afin qu'ils puissent comprendre à quel point les textes de l'Ancien Testament renvoient à l'œuvre de Jésus-Christ. L'Ancien Testament doit être lu à la lumière de ce que Jésus a accompli. C'est là aussi pour nous toute la frustration que l'on peut ressentir lorsque nous pouvons parler aujourd'hui avec des membres du peuple juif qui lisent l'Ancien Testament de façon très régulière, très assidue, et qui ne saisissent pas, qui ont ce voile devant les yeux, qui ne saisissent pas à quel point ces textes de l'Ancien Testament renvoient à l'œuvre de Jésus. Quelle frustration pour nous dire, ils ont toute cette révélation de Dieu, de l'Ancien Testament, et ils ne comprennent pas. Leurs yeux sont encore aveugles, et ils ont besoin que Dieu vienne ouvrir leurs yeux. C'est aussi pour cela que Paul a eu à cœur dans son ministère, lorsqu'il annonçait l'Évangile dans des nouvelles villes. Vous savez probablement, la première chose qu'il faisait, c'était quoi ? Il allait au temple. Il allait toujours au temple pour annoncer en premier le salut au peuple juif. Et c'est lorsqu'il était chassé, parce que ce qu'il disait dérangeait, qu'il annonçait le salut aux païens autour. Ce qui nous montre aussi que le Seigneur, parce qu'il est rejeté, parce que Dieu est rejeté par son peuple, le peuple juif, eh bien le salut devient accessible aux autres. Et l'Évangile est aussi prêché à toutes les nations et pas seulement au peuple juif. Jésus donc ouvre l'esprit de ses disciples. Et il leur dit, verset 48, « Vous êtes témoins de ces choses. » Ces promesses de l'Ancien Testament si importantes, ce virage qui n'a rien, qui induit des changements tellement profonds dans l'avancement du plan de Dieu, eh bien vous, vous avez vu ces choses de vos propres yeux. Vous avez une place privilégiée dans le plan de Dieu. Une place qui ne signifie pas simplement que les disciples voient ces choses et les gardent pour eux, mais qu'ils les partagent. Et c'est pourquoi, au verset 48 et au verset 49, le Seigneur va leur donner une promesse. « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Une promesse qui fait référence au début du livre des Actes, une promesse qui renvoie à l'envoi du Saint-Esprit. Jésus va laisser ses disciples sur terre, ce sera une perte pour eux. Mais il va au ciel et il va donner quelque chose à ses disciples. Si bien que les disciples, même s'ils perdent la présence physique du Seigneur, ils seront gagnants. Et j'y reviendrai un peu plus loin dans ma conclusion. Jésus leur demande simplement de rester dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que cette promesse pour eux s'accomplisse. Et c'est là que nous entamons la dernière partie de notre texte pour ce matin, les versets 50 à 53, que je vais lire. « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. » Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est une nouvelle séparation pour les disciples. Ils ont retrouvé leur maître. Au début, ils pensaient que tout allait redevenir comme avant, mais le Seigneur leur a ouvert l'esprit. Il leur a montré que le plan de Dieu suit son cours et on ne revient pas en arrière. Il les conduit jusqu'à Béthanie, il va les bénir à nouveau pour la deuxième fois, et pendant qu'il les bénit, il est enlevé au ciel par le Père Céleste. Je trouve intéressant de voir que suite à cet enlèvement, cette perte pour les disciples, quelle est la réaction des disciples au verset 52 ? Après l'avoir adoré, ils retournent à Jérusalem avec une grande joie. Leur premier réflexe, en voyant que Jésus, si j'ose le dire ainsi, les abandonne, Jésus les laisse, il s'en va. Leur réflexe n'est non pas de se lamenter, non pas simplement de voir la perte très concrète pour eux qui est devant leurs yeux, ils perdent quelque chose qu'ils ont aimé, la présence de leur maître, mais c'est l'adoration. Ils réalisent, parce que Jésus leur a ouvert les yeux pour qu'ils comprennent l'Écriture, ils réalisent que si Jésus s'en va, tout cela fait partie du plan de Dieu. Plan qui n'a pas été arrêté par la mort de Jésus, bien au contraire. Bien au contraire. Ils adorent le Seigneur et ils retournent à Jérusalem conformément à ce que Jésus leur a demandé. Jésus leur a dit « Je vais vous laisser, je vous promets quelque chose, je vous enverrai quelque chose, simplement attendez. » Attendez ce que je vous ai promis à Jérusalem. » Et ils retournent donc à Jérusalem, ce qui montre la confiance qu'ils ont dans leur Seigneur, alors que lorsque le Seigneur leur parlait de sa mort, avant qu'il aille à la croix, les disciples ne croyaient pas vraiment. Pierre a voulu retenir le Seigneur, ils n'ont pas saisi ce qui se passait, et lorsque ces choses sont arrivées, ils ont été remplis d'effroi, de tristesse. Aujourd'hui, vous voyez une grande différence pour eux. Ils sont remplis de joie, d'adoration. Ils saisissent que le plan de Dieu va plus loin que simplement ce que l'on peut voir de nos yeux physiquement parlant. Certes, Jésus part, mais c'est bénéfice pour eux, parce que Jésus ne les abandonne pas. Jésus accomplit l'Écriture et Jésus leur enverra le Saint-Esprit. Ils ont donc cette grande joie qui est la leur et ils sont continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Malgré cette séparation, en fait, nous voyons ici la joie et l'attente sereine des disciples pour l'accomplissement de la promesse. ils comprennent maintenant réellement, enfin, les paroles du Seigneur et sa mission. Ils ne seront plus dans le deuil, ils ne seront plus dans le doute ou dans l'incrédulité lorsque les femmes ont annoncé la résurrection, lorsque d'autres disciples ont annoncé la résurrection. Ils n'ont pas cru. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Ils saisissent les enjeux spirituels et ils saisissent ce que le Seigneur attend d'eux. Il y a un grand changement. Jusqu'ici, quand le Seigneur était avec eux, eh bien, c'était le Seigneur qui avait en charge la mission de Dieu d'annoncer le salut. Et les disciples, eux, ils étaient un peu ceux qui suivaient Jésus. Ils ont eu leur part, le Seigneur les a envoyés pour annoncer le royaume, mais c'était Jésus qui était responsable de cette mission. Aujourd'hui, le Seigneur s'en va, il retourne auprès du Père, et il confie sa mission à ses disciples. Les disciples vont attendre à Jérusalem la venue de l'Esprit, et ensuite c'est eux qui auront cette charge. Ce ministère que Jésus a eu, c'est eux qui vont devoir le prolonger. Voilà ce que le Seigneur demande à ses disciples. C'est là aussi ce qu'il nous demande à nous aujourd'hui, lorsque dans sa parole, le Seigneur nous dit l'importance de veiller et de prier. Souvent, c'est un thème qui revient dans l'enseignement de Jésus, veiller et prier. Un encouragement, un ordre qui aussi nous concerne aujourd'hui. Est-ce que nous avons à cœur de veiller et de prier, sachant que le Seigneur nous a confié sa mission? Sachant que nous sommes dans un monde qui suit son propre cours, qui a sa propre domination sur ses épaules, qui est dirigé, non pas par Dieu, mais par l'ennemi de Dieu. Est-ce que nous avons à cœur de veiller et de prier dans ce monde? Et qu'est-ce que signifie pour nous veiller? Est-ce que veiller signifie simplement rester passif, garder le bon dépôt de la foi, se barricader, s'emmurer pour se défendre des agressions extérieures? Vous comprenez bien ici, déjà dans ce texte, que ça ne peut pas être ça. Si la mission du Seigneur a été d'annoncer le salut à toutes les nations, et s'il confie cette mission à ses disciples, qui aujourd'hui, c'est nous sommes ses disciples, parce que les douze à qui le Seigneur confie sa mission sont morts physiquement, humainement. Et la mission de Dieu ne s'arrête pas avec la mort des disciples. Elle ne s'est pas arrêtée avec la mort de Jésus, parce qu'il est ressuscité, et elle ne s'arrête pas non plus avec la mort des disciples, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. C'est là pour nous toute l'importance de bien saisir les temps dans lesquels nous sommes, même par rapport à la crise que nous vivons encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas fini. Les choses changent. On ne peut pas empêcher les choses de changer. C'est vain. On peut toujours essayer de s'accrocher dans une forme de nostalgie à ce qu'on avait avant, que l'on a perdu peut-être, et essayer à tout prix de le retrouver. Je pense qu'il y a pour nous quelque chose à réfléchir, de saisir que peut-être le Seigneur a d'autres choses de prévues pour nous. Peut-être que le Seigneur veut utiliser cette crise que nous vivons pour induire un virage, des changements. Pour nous, pour notre Église ici à Lens. C'est là aussi pour nous, chacun individuellement, l'importance de se mettre dans une attitude de prière et de réflexion personnelle. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? En quoi la situation a changé dans notre monde? En quoi le plan de Dieu peut agir au travers de ces circonstances difficiles que notre société traverse? En quoi est-ce que notre message, l'Évangile que Dieu nous confie, en quoi est-ce que cet évangile répond à un besoin, à une attente de notre environnement, de ceux qui vivent autour de nous? Qu'est-ce que Dieu peut leur apporter qu'ils ont perdu? C'est là aussi ce que j'aimerais terminer en prenant un dernier passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Pour les disciples, c'est une réalité qu'ils ont vécue. Le Seigneur devait partir, c'est une perte pour eux, mais le Seigneur a envoyé son esprit, ce qui a été un gain pour eux, si bien que ce qu'ils ont gagné est plus grand que ce qu'ils ont perdu. Et pourtant, c'est la présence physique du Seigneur qu'ils ont perdue. Qu'est-ce que nous, on n'aurait pas donné pour vivre ces moments avec le Seigneur, ces 3 années ? Et le Seigneur lui-même le déclare, « C'est avantageux pour vous que je m'en aille. » Est-ce que nous réalisons aujourd'hui, parfois lorsque nous lisons notre Bible, nous lisons les évangiles, on aurait tellement aimé vivre ce que les disciples ont vécu. La présence du Seigneur, pouvoir lui poser des questions et avoir une réponse directe. Est-ce que nous réalisons que le Seigneur dit qu'aujourd'hui, nous, ici, qui vivons ces temps, nous sommes avantagés par rapport aux disciples. Nous sommes avantagés parce que nous avons la chance de pouvoir vivre cette présence de l'Esprit en nous tous les jours de notre vie. Dieu est présent avec nous tous les jours. Et il est présent avec tous les croyants. Et c'est là aussi, pour nous, l'occasion dans ces temps de changement que nous vivons, d'avoir un temps à part, je dirais un temps de repos, d'adoration et de joie, pour reprendre ce qu'ont vécu les disciples dans ce temps particulier. Un temps où on réfléchit. Un temps où, de toute façon, on a été arrêté dans cette crise, dans nos activités quotidiennes. Les choses se sont arrêtées. On a été dans un confinement, même si on ne l'est plus aujourd'hui, et tout cela est propice pour nous poser les bonnes questions. Parce que si on se contente de regarder de nos yeux, de voir matériellement ce qui se passe, on aurait peut-être envie de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? À quoi est-ce que tu joues ? Pourquoi tu permets ces choses ? Regarde un peu ce qu'on a perdu. Et le Seigneur veut aller plus loin que ça. Il veut nous emmener plus loin, comme il a emmené les disciples plus loin, en leur montrant que ce n'est pas parce que Jésus n'est plus présent physiquement que le plan de Dieu s'arrête. Au contraire, Dieu veut nous emmener plus loin. Et Dieu veut nous emmener plus loin en tant qu'Église aussi, allons se souvenir. Cela induit nécessairement des changements pour nous. Et ma prière pour nous, c'est que nous puissions bien saisir ce que le Seigneur attend de nous, rentrer dans ses plans et contempler les miracles qu'il peut faire. Dieu a encore des projets pour nous, pour chacun d'entre nous. Je vais terminer par la prière. Thank you.